Et c'est l'heure des 10 minutes de neurosciences, la troisième partie de notre émission. Et si vous deveniez vous-même, alors Jean-François, aujourd'hui, vous allez nous parler de la douleur.
Tout à fait, Cyrielle. Alors j'espère que vous n'allez pas le vivre dans la douleur, mais les neurosciences, vous savez, c'est très agréable aussi. Donc oui, on va parler d'un sujet assez intéressant, qui est le sujet de la douleur. Et on va parler notamment de comment, au fond, la douleur est perçue. Comment se fait-il que nous percevons la douleur? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la douleur et à quoi sert-elle?
Alors, la douleur, c'est en fait un signal. C'est un signal du corps qui est envoyé au cerveau en disant « il y a un problème, quelque chose se passe ». Donc, la douleur est importante, en fait, pour se sentir exister. Et en fait, pour sentir son corps, et également pour se protéger. Donc ça, c'est très important de bien se rendre compte qu'en fait, la douleur est un outil qui nous permet d'avoir conscience de notre corps. Pour qu'une région corporelle soit perçue comme une partie du corps, en fait, il faut qu'elle soit sensible à la douleur. Si nous avions une partie du corps qui était totalement insensible à la douleur, nous n'en aurions quasi pas connaissance.
On n'en aurait pas connaissance. S'il y avait un problème, on ne le saurait pas.
Voilà, tout à fait. Mais en fait, on n'aurait même pas conscience du tout. On n'aurait pas du tout cette idée que ça existe. Donc, la capacité, en fait, à ressentir la douleur détermine certains aspects fondamentaux de l'image corporelle, notamment de sa surface et de sa texture. Hein ? On peut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la douleur, 30% quand même des adultes se plaignent de douleur. 30%. Donc une personne sur trois, en fait, a des problèmes de douleur au niveau du dos, du cou, des membres, ou bien des lombalgies, ou des choses comme ça. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui souffrent de douleur. Et seulement 50% des patients ayant une douleur chronique, donc une douleur chronique, c'est une douleur qui a plus de 3 mois.
Ouais.
D'accord ? Donc, une douleur chronique, seulement 50% de ces patients reçoivent un traitement.
D'accord, les autres vivent avec.
Les autres vivent avec. Les autres vivent avec, enfin en tout cas essayent de vivre avec. Et donc on sait que la douleur est un enjeu sociétal aujourd'hui important et que c'est un enjeu de santé publique. Donc vraiment, il y a un travail à faire là-dessus qui est extrêmement important.
Il y a plusieurs types de douleurs ?
Alors il y a plusieurs types de douleurs. En fait, on va considérer qu'au niveau de la douleur, il y a la douleur dite aiguë. Commencer par cette catégorie-là. Donc, en fait, la douleur aiguë se manifeste par l'activation de nocicepteurs. Les nocicepteurs, en fait, ce sont des capteurs, hein, des capteurs sensoriels de la douleur. Donc, la douleur est une perception avec des effets irritants, pénibles, lancinants, insupportables venant du corps. Donc, il y aura différents qualificatifs que l'on pourra donner à la douleur. Et en fait, pour soulager ce type de douleur, il suffit de supprimer la cause de la production de l'information nociceptive. Donc si on arrive à supprimer la cause de l'information sensorielle ou de limiter les effets, on pourrait le faire avec des molécules pharmacologiques d'ailleurs, c'est un peu le principe des médicaments, de pouvoir donc soit limiter l'information, soit la supprimer complètement, c'est ce qui fait supprimer la douleur. Donc supprimer en fait l'information que l'on a de la douleur. Ça c'est le principe de la douleur aiguë. Alors si on regarde un petit peu comment ça fonctionne dans le procédé,
je vois qu'il y a pas mal de schémas, là.
Alors on va essayer de les imager très simplement. On va prendre un exemple, Cyrielle. Imaginons que vous mettiez votre pied, par inadvertance, j'imagine, sur un clou.
Douleur.
Douleur, aïe. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Premier élément, vos nocicepteurs du pied, donc les capteurs sensoriels de vos pieds, reçoivent l'information que vous avez marché sur un clou. Et cette information envoie un message à la corne dorsale. Et ces informations, ensuite, sont envoyées au tronc cérébral, qui envoie à son tour les informations au thalamus. Le thalamus est une partie qui se trouve dans le cerveau. Les informations sont aussi envoyées vers le cortex somatosensoriel. Donc il y a deux informations, une vers le thalamus, une vers le cortex somatosensoriel. Et c'est alors que le cerveau interprète tout ça, envoie un message vers le tissu qui est lésé, donc vers votre pied, afin de créer un réflexe pour bouger rapidement le pied. Donc on parle bien d'un réflexe. En fait, vous n'allez pas être capable de commander votre pied. Votre pied va bouger tout seul.
Il va s'enlever tout,
il va s'enlever tout seul parce qu'il a cette information. Et donc, simultanément à cette douleur, il y aura des messages cérébraux qui vont descendre dans la moelle épinière et qui vont bloquer l'information douloureuse afin qu'elle s'arrête. C'est ça le principe d'une douleur aiguë. Vous avez mal et ça s'arrête.
D'accord.
Ça s'arrête parce que, effectivement, il y a un message qui descend dans la moelle épinière et qui bloque l'information douloureuse afin qu'elle s'arrête.
Ça me fait penser à un sujet qui me serait assez intéressant de discuter. Donc ma question, c'était, quand il arrive quelque chose de vachement grave, finalement, souvent il y a ce qu'on appelle peut-être l'adrénaline aussi, qui fait qu'on a pas mal tout de suite. Ce serait intéressant d'en parler aussi, ça, une fois. Ça pourrait être sympa.
Alors,
un prochain sujet.
Oui, alors effectivement, parce que donc, l'adrénaline est un sujet très intéressant. Donc il y a l'adrénaline qui va entrer en jeu, mais il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui vont entrer en activation. C'est un sujet quand même éminemment complexe, mais effectivement, vous avez raison, l'adrénaline va créer quelque chose. L'adrénaline est souvent liée aussi aux réflexes, hein, effectivement, c'est ce qui nous permet de réagir rapidement, hein, de monter un niveau de stress extrêmement rapide pour pouvoir nous faire réagir, mais il y a d'autres choses. Mais vous avez raison, effectivement, on pourrait dire qu'il y a aussi de l'adrénaline qui fait qu'il y a un mouvement automatique qui se fait, un mouvement réflexe.
On continue sur les différents types de la douleur ? Non, oui.
Absolument, non, vous avez raison. On va travailler maintenant sur la douleur chronique. Donc la douleur aiguë, on l'a vu, hein, c'est un réflexe. Donc la douleur chronique, comme je l'avais indiqué, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on la qualifie. En fait, c'est ou neuropathique ou inflammatoire, on y viendra après. Et en fait, il s'agit d'un changement neuroadaptatif de certains relais entre le système sensoriel et la corne dorsale. Donc, la douleur chronique est plus influencée par les émotions que la douleur aiguë. Donc, d'où, évidemment, l'intérêt de pouvoir travailler notamment avec de l'hypnose, puisque, à un moment donné, sur une douleur chronique qui est éminemment soumise aux émotions, en changeant, en variabilisant ce qui peut se passer au niveau des émotions, en modulant, on va probablement être capable de travailler en hypnoanalgésie. En fait, c'est important de comprendre comment ça fonctionne parce que les douleurs chroniques sont souvent associées à d'autres troubles. C'est-à-dire que la douleur chronique va créer des problèmes de dépression, de troubles de l'attention, etc. Donc, il y a un ensemble de troubles qui vont être aussi présents lorsqu'il y a ces douleurs chroniques. Si on regarde un petit peu comment fonctionne la douleur chronique, en fait, on va se rendre compte qu'il y a un petit peu le même système de nocicepteurs, donc par exemple au niveau du pied, qui prend l'information, qui renvoie l'information toujours au niveau de la corne dorsale. De la corne dorsale, les informations montent au tronc cérébral et sont envoyées au thalamus. Jusque-là, on est dans la même chose. Et les informations sont aussi envoyées vers le cortex somatosensoriel, donc on reste toujours sur une information d'une douleur. Par contre, toutes ces informations deviennent anormalement excitables et sont devenues incontrôlables. Et il n'y a plus, en fait, de système inhibiteur. Il n'y a plus d'inhibition, comme on l'avait dans la douleur aiguë. Hein, rappelez-vous, dans la douleur aiguë, j'ai la douleur aiguë, mais à un moment donné, ça va être coupé.
Ça s'arrête.
Et oui. En fait, là, il n'y a pas d'inhibition des informations douloureuses, donc l'information douloureuse perdure. D'accord ? Donc ça, c'est important à voir. Et dans ces douleurs chroniques, on va dire qu'il y a les douleurs chroniques inflammatoires. Donc ce sont des mécanismes de sensibilisation périphérique et centrale, comme par exemple la polyarthrite. On peut dire que c'est une inflammation. Et nous avons les douleurs chroniques neuropathiques. Alors les neuropathiques, ce sont les sensibilisations au niveau des nerfs.
Et enfin, on termine par les douleurs fantômes.
Alors, les douleurs fantômes, qu'est-ce que c'est donc ? Lorsqu'en fait un membre est amputé, le système somatosensoriel qui comprend la représentation complète du membre n'est pas informé que le membre est retiré. Donc en fait, ce système croit toujours que le membre existe toujours. Donc il en résulte en fait que les informations du moignon renvoyées au système somatosensoriel sont anarchiques et que celui-ci va les interpréter comme étant de la douleur. Donc ça, c'est un élément assez particulier. Et on remarque qu'au niveau du cortex, 50% des patients qui sont amputés vont développer des douleurs chroniques jusqu'à la fin de leur vie. Hein, donc un patient qui est appareillé risque, lui, moins ce genre de problème. Hein, parce que son cerveau reçoit une information, en fait, que le membre existe toujours et quelque part, il a la perception que ce membre existe. Mais il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites, dont une expérience que j'ai vue en Angleterre où, par exemple, on installait une personne devant un bureau et on lui cachait, par exemple, le bras droit, d'accord ? Et à côté de ce bras droit qui était caché, on mettait un faux bras. Donc la personne voyait son bras gauche et voyait un faux bras et savait que son bras droit était caché derrière une paroi. Et le premier exercice, c'était qu'avec un pinceau, on allait caresser simplement le dessus de la main, de la vraie main droite, d'accord ? Et caresser en même temps la main qui était en plastique, donc la fausse main, d'accord ? Et donc la personne ressentait bien à sa main droite qui était cachée le pinceau, voyait sur le faux membre voyait aussi le pinceau, et donc se disait, ben effectivement, on me caresse bien le dessus de la main. Et puis, la suite d'expérience, c'est qu'au lieu de prendre le pinceau, la personne qui fait le test prend un marteau et va taper avec le marteau sur la main qui est en plastique. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'au moment où le marteau va frapper la main qui est en plastique, la personne retire sa main droite. D'accord ? Donc en fait, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, elle n'est pas capable, la personne n'est pas capable. C'est complètement dingue, oui. La personne n'est absolument pas capable de comprendre qu'il s'agit de la main en plastique sur laquelle arrive le marteau et pas la sienne. Et d'ailleurs, ça donne des scènes hilarantes où on voit la personne qui hurle, qui retire sa main, qui dit surtout ne faites pas ça, alors que le marteau est vraiment bien orienté sur la main en plastique. Hein. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu ce qui se passe au niveau du membre fantôme et au niveau de ses connexions. Là, en fait, on simule quelque part le membre fantôme puisqu'on va cacher cette fameuse main droite. La personne ne va plus la voir, mais elle va ressentir des choses. Donc il y a un brouillage des informations qui sont faites. Alors par contre, lorsqu'on veut aider des patients qui ont ce genre de troubles de main, de bras fantômes, eh bien on va travailler effectivement par une thérapie de miroir. C'est-à-dire qu'on va mettre un miroir devant l'autre bras qui est valide, de manière à faire croire au cerveau que l'autre bras existe toujours, et de manière à pouvoir refaire des connexions neuronale de manière à ce que la personne puisse imaginer réavoir un bras. Et on va pouvoir traiter ça comme ça. C'est ce qu'on appelle la thérapie par le miroir. Il existe aussi la thérapie par réalité virtuelle qui fera en fait un peu la même chose.
Et on termine cette partie sur les 10 minutes de neurosciences sur la douleur par cette dernière question. Quels sont les traitements de la douleur ?
Les traitements sont nombreux. On peut travailler...
Et on termine cette partie sur les 10 minutes de neurosciences sur la douleur par cette dernière question. Quels sont les traitements de la douleur ?
Alors, les traitements sont multiples. On peut travailler avec des anti-inflammatoires. Il y a aussi des anesthésiques locaux, hein, donc si on fait des bloqueurs de conduction nerveuse. Il y a, dans certains cas, des antidépresseurs qui vont faire la modulation sérotoninergique ou les antiépileptiques qui existent aussi. Alors, les opioïdes, qui sont évidemment comme la morphine, qui sont évidemment des produits très très forts. On peut aussi travailler avec, bien sûr, l'hypnose, et on peut travailler avec des stimulations du cortex par miroir ou réalité virtuelle. La méditation et les thérapies comportementales peuvent effectivement travailler sur toute la partie émotive, puisqu'en fait, on va considérer que la douleur, elle a une caractérisation double. Elle a une caractérisation d'intensité et une caractérisation d'affectivité. L'intensité, c'est j'ai plus ou moins mal. L'affectivité, c'est comment je ressens cette douleur. Je la ressens désagréable, forte, je la ressens extrêmement dérangeante. Donc je vais pouvoir qualifier, et l'affect que je vais mettre dedans, c'est la manière d'affectivité que j'aurai de traiter cette douleur. Et ces deux paramètres vont pouvoir être traités notamment avec l'hypnose.
Je pense que c'est très intéressant d'essayer par l'hypnose ou par la méditation, parce qu'on n'ingère pas du coup ces médicaments qui sont extrêmement forts. Ça peut être une méthode qui est beaucoup plus saine de se soigner.
C'est une méthode certainement plus saine, mais il faut rester prudent aussi. L'hypnose va pouvoir travailler donc sur l'intensité ou l'affectivité qu'on a par rapport à la douleur, mais il faut savoir qu'il n'existe pas de protocole hypnotique efficace à 100%. Enfin, c'est-à-dire, pour être plus précis, que chaque personne va ressentir des scénarios différents au niveau de la douleur. C'est-à-dire que je peux appliquer un type de protocole pour la douleur qui ne va absolument pas fonctionner sur cette personne et je vais devoir en chercher un autre. Il faut essayer plusieurs techniques jusqu'au moment où je vais trouver la technique qui est vraiment adéquate. Donc il y a un travail d'enquête et de recherche. On ne peut pas dire qu'un type de protocole précis va répondre systématiquement à tous les problèmes de douleur pour toutes les personnes. Hein, donc il y a quand même ce travail-là. Et puis on est quand même sur quelque chose qui traite des émotions. Donc ça peut certainement venir en complément d'un travail qui est fait dépendant du type de douleur, mais ça peut venir en complément d'un travail éventuellement pharmacologique.
D'accord, très bien. On fait une petite pause, hein. On a parlé donc de la douleur. Si vous nous rejoignez dès à présent, n'hésitez surtout pas à nous retrouver en podcast très bientôt sur la page rcmlaradio.fr, notre site internet. On se retrouve donc juste après une petite pause musicale. On va parler cohérence cardiaque.